c'est quoi un con ? Un con, il y en a partout. Moi, j'en ai un des fois dans le miroir. J'en vois beaucoup. Des vieux cons, des jeunes cons. Il y a beaucoup de cons.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission qui tente fois à élever votre esprit. Grâce à des thèmes comme l'urbanocène, le techno-féodalisme ou encore la biomorale. Oula, va falloir avoir à lever le pied sur les sujets intello, ma cervelle va finir par exploser, nous a dit dernièrement Cyril Lacarrière, notre rédac-chef, qui s'est finalement adapté au cahier des charges de France Inter, mais qui devait à la base, je vous le rappelle, rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna dans TPMP. Il avait été contacté, vous aviez été contacté Cyril, hein? Oui, vous aviez dit.
Oui,
ah, il n'ose
oui,
plus en parler aujourd'hui.
Oui,
il a honte. Alors aujourd'hui, afin d'éviter à Cyril une luxation du cerveau, nous avons décidé de zoomer sur un mot qui non seulement est dans l'air du temps, mais qui, c'est très rare pour un mot, l'a toujours été et le sera toujours. Parce que.
Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con.
Je déteste.
On est con.
Vous détestez Georges Brassens, Cyril. Décidément, entre votre, votre candidature chez Hanouna et cette révélation sur vos goûts musicaux, on est bien dans le thème. Oui, aujourd'hui, zoom sur cette valeur éminemment relative, mais qui est au cœur de nos vies, la connerie. Elle est partout. Chez ce motard pressé qui vous coupe la route alors que vous traversez sous les clous en vous hurlant
« T'es qu'une merde !»
Chez cette fille qui a bientôt 34 ans, c'est-à-dire qu'elle va bientôt entrer dans sa 35e année, vous prend de haut quand vous dites que vous ne connaissez pas Cardi B et vous traite de vieux ringard en s'esclaffant bruyamment. Ou encore chez ce garçon qui, pour épater les touristes suédoises, s'amuse à empaler un moineau sur la pointe de ses paraboots avant de le laisser agoniser sur un bout de trottoir. Pauvre Piaf, qui, avant de rendre l'âme, aurait déclaré
«
Comme Jean René, ce monsieur que Quentin avait un jour interviewé dans la rue et qui était visiblement très ému. » Bref, la connerie est partout, tout le temps. Mais on ne prend jamais le temps de la définir, cette connerie. Où commence-t-elle ? À partir de quel moment vire-t-elle au sublime ? Peut-être quand Pierre Courade commence à nous parler de sa passion pour l'aviation civile et militaire. Voyons ça calmement. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Il est sur Jean René encore.
Ah ouais, ça colle super bien le son de Jean René sur l'oiseau, pardon.
Je vous remercie, Quentin.
Ça m'a fait rire. Voilà, c'est bon.
Bonjour Jean-François Marmion. Oh non, je vous en prie. Ah pardon, je présente l'invité, un peu de sérieux. Bonjour Jean-François Marmion.
Bonjour, je suis ravi que le service public salue en moi une référence en matière de conneries.
Ah bah c'est tout à fait pour ça qu'on vous a dit, vous êtes psychologue et essayiste, votre sujet de prédilection c'est la connerie, vous êtes même autoproclamé conologue, autant vous dire que vous êtes au bon endroit pour étoffer vos recherches, j'ai de beaux spécimens. Vous venez de coordonner le hors-série du magazine Science Humaine qui vient de sortir un exemplaire consacré à la psychologie de la connerie et vous avez aussi dirigé de nombreux livres dont la fameuse trilogie de la conologie, Psychologie de la connerie, Histoire universelle de la connerie et Psychologie de la connerie en politique.
Et il y a même la connerie en amour, si ça vous intéresse.
La connerie en amour,
mais oui,
en plus,
la France doit le savoir.
Ça existe aussi, ouais. Elle le sait désormais. Vaste sujet donc, qu'on va tenter de défricher en votre compagnie pendant une heure. Juste le temps de vous présenter mes précieux collègues, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés Jean-François, contrairement à ces gens qui, comme dirait élégamment Dominique de Villepin, ne sont pas dotés de capacités conceptuelles pour comprendre, elle est sévèrement brainée. Le mot génie pourrait se retrouver d'ailleurs bientôt dans sa bio Wikipédia, si toutefois c'est elle qui écrit sa page Wikipédia. Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Eh bien un film, justement, on a entendu son générique juste avant, Georges Brassens, Cyril. L'iconique François Pignon et ses sculptures d'allumettes seront dans ma pièce jointe.
Ah, oui. Heureusement, il fallait qu'on l'entende
et
dans l'émission.
Et juste le blanc aussi, évidemment.
Et juste le blanc, forcément. Face à vous, Jean-François, l'acte qu'il a commis mercredi est si barbare, si gratuit qu'il appelle un droit de réponse. Quentin, il est temps de nous livrer votre version de l'épisode dit de la purée de moineau.
Que s'est-il passé ?
Les gens ont cru que j'ai raconté n'importe quoi.
C'est un noisicide involontaire. C'est-à-dire que j'ai pilé malencontreusement sur un moineau qui n'est pas mort sur le coup et que j'ai...
Mais pilé, c'était avec votre pied, donc, c'était pas avec votre scooter.
Mais pardon, mais vous l'avez secouru ou
non,
vous l'avez...
J'ai fait du bouche à bouche.
Du bouche à bec.
Du bouche à bec.
Il avait plus de tête.
Mais voilà, notre invité aurait fait du bouche à bec.
Non,
et vous, non.
Je lui ai cassé sa cage thoracique et je pense qu'il est en train d'agoniser.
Ah,
c'est horrible ce que je raconte. Et je m'en suis... Et j'étais vraiment très très mal à l'aise.
Ça vous empêchait de manger après,
mal à l'aise. Pour le moins.
Je n'ai pas pu manger.
Ah oui, ça vous a coupé l'appétit.
Non, oui, juste un quart d'heure, il a déjeuné au bureau.
Vous avez tué un être vivant et vous avez juste sauter un repas.
Non,
il a mangé un
repas. Décalé un repas.
Il a mangé un sandwich au camembert de la cafétéria.
C'est encore pire que ce que j'imaginais.
À 15h.
Non, il a mangé l'oiseau.
Quentin, chaque après-midi et la plupart du temps sans tuer personne, vous partez à la rencontre des gens pour les faire réagir à notre notion du jour. Alors, est-ce que la connerie inspire les gens ?
Eh bien, très étonnamment, ça a philosophé autour de notre sujet du jour. C'est quoi un con ? À quoi on le reconnaît ? Est-ce que ça ose tout, comme on le dit ? Oui. Et surtout, est-ce que nous sommes plus tolérants et moins dans le jugement qu'avant avec ceux qu'on trouve cons ? Vos réponses dans la prochaine demi-heure dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, du savoir et de la connerie, n'est-ce pas là précisément l'essence du Zoom Zoom Test ? Un quiz en forme de qui est-ce aujourd'hui à la rencontre d'une brochette des plus beaux spécimens de cons à travers l'histoire récente. Juste avant 17h...
Pourquoi vous me regardez ?
Bah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Votre visage me manquait, je me suis tourné vers vous pour attraper votre sourire, c'est tout Manon. N'allez pas y voir un message subliminal.
Il est embêté.
Juste avant 17h, nous verrons si François Rollin a apprécié ou pas nos thématiques d'émission cette semaine. Après 17h, on passera en mode zoom zoom back direction 1994 pour évoquer la Britpop qui triomphait alors. Mais d'abord, alors Jean-François Marmion, comme on a la chance d'avoir un expert parmi nous, il est temps de répondre à cette vieille question. Est-ce que c'est vrai qu'on est toujours le con de quelqu'un ?
Mais c'est inévitable. En ce moment, on est nous-mêmes les cons, la bande de cons de certaines personnes qui nous écoutent, qui nous disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça sur France Inter ?»
Qu'est-ce que c'est que ces cons ?
Évidemment, évidemment. Alors, on est toujours très prompt à juger cons des gens qu'on ne connaît pas.
Ah, plutôt.
Voilà. Plus on connaît les gens, moins on les juge, en fait. Plus on comprend leur complexité, donc moins on les trouve cons. Et plus on se dit parfois, mais peut-être que le vrai con au départ, c'était moi. C'est toute la morale du Dîner de cons et de tous les autres films de Francis Weber. Il y a toujours un type qui se croira supérieur, qui a un con dans les pattes et qui s'aperçoit à la fin que les rôles étaient inversés.
Lui, il est à l'abri. Jamais personne ne songerait à qualifier de con un individu qualifié par le service com de France Inter de facétieux pédagogue et par sa fiche Wikipédia, visiblement pas à jour, de spécialiste média. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Adrien Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Cyril, chaque après-midi, vous remontez à l'origine de notre phénomène du jour. Alors là, vous avez dû remonter très très loin.
Imaginez la terrasse d'un café, quelqu'un renverse son verre, un autre sort une blague douteuse, et cette phrase qui fuse, quel con, quel conne. On l'utilise tous les jours, on l'entend partout, sans plus vraiment y prêter attention, et sans vraiment se demander d'où vient ce terme. À l'origine, con, ça désigne les organes génitaux féminins, la vulve en fait. Et puis le terme glisse de l'anatomie vers l'insulte. Au 19e siècle, grâce à des chansonniers notamment, con devient le synonyme d'imbécile, et logiquement la connerie désigne l'acte stupide, l'erreur, la gaffe.
À la boulette. J'ai fait la boulette.
Et la connerie, elle va être partout dans la culture populaire et même politique.
Oui, Charles Pasqua dénonce les conneries de ses adversaires. Le président Chirac, lui, aimait reprendre cette expression. Les cons, c'est comme les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Plus près de nous, Emmanuel Macron a dit devant des cheminots en grève qu'il ne fallait pas raconter de conneries. Et évidemment, dans la culture populaire, la connerie est comme un fil rouge. Michel Audiard en a fait une maxime de bistrot. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Coluche aimait les incarner sur scène. Et Serge Gainsbourg aura, lui, cette phrase. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Alors d'où ça sort la connerie ? Eh bien d'un peu tout ça, de partout, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Jean-François Marmion, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de Gainsbourg ? La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Elle est rassurante, ça veut dire qu'on n'est jamais con tout le temps.
C'est la décontraction de l'intelligence quand on en a.
Ah oui, d'accord. Il y en a qui en sont dépourvus.
Mais bien sûr. Ça, c'est une vieille dichotomie qu'on retrouve depuis les Grecs. Il y aurait les cons des villes et les cons des champs, en quelque sorte. Ouais. Les cons des champs, c'est les péquenauds, c'est ceux qui sont bêtes, qui n'ont rien dans le crâne, qui vivent parmi les bêtes, et qui sont méprisés par les gens de la ville, qui, eux, sont vus comme des cons par les cons des champs.
Oui, bien sûr.
Parce que les cons de la ville, ils sont pédants, ils sont infatués d'eux-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve jusque dans les Gilets jaunes. Donc, mon premier bouquin est sorti au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était quoi ? C'était des gens qui, à Paris, disaient « les Gilets jaunes sont des péquenauds. D'ailleurs, ils conduisent des diesels avec la clope au bec. » Quelqu'un de gouvernement qui a dit ça quand même. Et les Gilets jaunes, eux, disaient « ah ben non ». Les cons, c'est ceux d'en face qui sont intelligents au point de faire des grandes écoles, mais qui en sortent en ne connaissant rien de la réalité.
Si on veut aller plus loin dans le côté un peu scientifique de la connerie, ce qui ressort de l'article que j'ai trouvé dans votre hors-série de Sciences Humaines, notre cerveau, est-il écrit, pour simplifier la complexité du monde, fabrique des raccourcis mentaux qui déforment parfois la réalité et nous confortent dans nos croyances. C'est un peu ça la base de la connerie.
Ben, c'est notre mode par défaut, en fait. Le cerveau, c'est à la fois un abo et un ogre. C'est un abo parce qu'il fait 2% du poids de notre corps, et c'est un ogre parce qu'il consomme 20% de notre oxygène et de nos réserves de sucre en permanence. Donc, il est paramétré pour fonctionner à l'économie. Tout en nous est fait pour qu'on juge les situations et les gens le plus vite possible. On ne se soucie pas de la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle le système 1 en psycho. C'est comme quand on est en vélo. Hop, on est sur du plat, on pédale sans y penser. Et puis tout à coup, ça monte. Alors là, on passe en système 2, on commence à souffrir, on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est dans le système 2 qu'on passe au mode résolution de problème. Le système 1 a bugué, l'automatisme ne suffit plus, donc je passe en résolution de problème, j'essaie de résoudre le problème. Ça ne veut pas dire que j'y vais y arriver. Peut-être que je vais me tromper dans la solution, peut-être que le problème est mal posé, que je vais pédaler sans fin. Mais en tout cas, il y a toujours ces deux braquets dans notre cerveau. Par défaut, système 1, on ne réfléchit pas, même si une petite voix nous dit « t'as tout compris ». Et système 2, doucement, où tu vas là ? Réfléchis. Mais on ne réfléchit pas en temps, sinon ça fait mal à la tête, littéralement.
Mais ça remonte au fait que l'homme, avant, quand il était chasseur-cueilleur, il devait prendre des décisions très rapides pour sa survie, en fait. Et peut-être on hérite de ça dans notre cerveau, on n'a pas le temps, on se dit qu'on n'a pas le temps de réfléchir à analyser une question profondément.
Dans ce cas, ça veut dire que la sélection naturelle a favorisé les plus cons de nos ancêtres. Sans eux, on ne serait pas là. Parce que les plus intelligents, ceux qui se demandaient s'il fallait réagir au tigre à dents de sabre ou pas, ils se sont fait bouffer. Pour donc, merci les cons.
Merci les cons.
France Inter. Zoom zoom zoom. Mathieu Noël.
L'expert en conologie, mais surtout psychologue et essayiste Jean-François Marmion est toujours avec nous pour décortiquer ce qui se cache derrière la connerie. Vaste phénomène. D'ailleurs, Jean-François, comment ça s'étudie la connerie ? C'est un peu large comme champ d'étude.
Alors ça s'étudie de façon très scientifique avec des chiffres partout, mais surtout aux États-Unis. Mais de façon séparée, certains sont spécialisés dans les biais cognitifs, les heuristiques, c'est-à-dire justement les automatismes de la pensée dont je parlais tout à l'heure. D'autres sont spécialisés dans les erreurs qu'on commet lorsqu'on est en groupe, ça c'est la psychosociale depuis un siècle. D'autres sont spécialisés dans les stéréotypes, etc. Dans la violence, dans le sexisme, dans le racisme, tout ça, ça peut être chapeauté en français sous le terme général de connerie, qui est bien pratique, parce que les anglo-saxons n'ont pas vraiment l'équivalent. C'est plutôt la stupidity. Mm-hmm. Ils n'ont pas vraiment l'équivalent de notre connerie.
Dump,
c'est un peu idiot, c'est un peu bas du front. Ah. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas bullshit, par exemple, qui est encore autre chose. Ouais. C'est la post-vérité. Vous voyez, il y a toute une nuance, tout un nuancier de la connerie. J'ai toujours qu'il y a 50 nuances de con. Malheureusement, il y en a un peu plus.
Il y a tout un lexique aussi. C'est quoi j'ai appris l'existence de cet effet Dunning-Kruger.
Ah, l'effet Dunning-Kruger, du nom des psychologues qui l'ont identifié. On parle aussi parfois d'ultra-crépidarianisme, mais c'est pour faire le branleur. Ça, c'est autre chose.
Voilà.
Alors, ça, c'est quoi ? C'est qu'on a toujours tendance, tous autant qu'on est, à se croire spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas. Moins on s'y connaît, plus on a des jugements péremptoires en tapant du poing sur la table. Inversement, plus on maîtrise un sujet, plus on est prudent. Plus on se dit, oh, attends, c'est vachement compliqué à expliquer, j'y vais doucement. Donc les ignorants se prennent pour des experts, les experts se prennent pour des ignorants.
Est-ce que l'expression « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis » est justifiée ?
Alors, je pense que oui, parce qu'une des définitions possibles de la connerie, parce qu'il y en a littéralement des dizaines, une des définitions possibles, c'est la persistance dans l'erreur, la persistance satisfaite et agressive dans l'erreur.
Donc, ne parlez pas comme ça de François Bayrou, s'il vous plaît, monsieur, je vous interdis.
On pourrait en citer tellement.
C'est quoi la différence entre un con et un connard ?
Alors, le connard, c'est le sale con.
Ah non. C'est le con.
C'est le con qui a tendance à se croire supérieur. C'est pas le cas de tous les cons. Les braves cons, les cons, ils se sentent pas supérieurs. Mais les sales cons, ils se pensent supérieurs et ça les autorise à mépriser ou écraser ou torturer les autres.
Type Donald Trump.
Ah je l'attendais celui-là. Le type Donald Trump, mais il est pas le seul. Il y a beaucoup de chefs d'État dont on pourrait dire exactement la même chose aux quatre coins de la planète. Lui nous choque davantage parce qu'on se dit que dans une démocratie c'est pas normal. Mais il y en a plein d'autres qui sont même pire que lui. Et je pense que dans l'histoire des États-Unis, il y en a eu d'autres qui étaient pas mal, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux pour qu'on mette le nez dessus.
Question importante, Monsieur Marmion, est-ce que la connerie a évolué dans l'histoire ?
Alors. Oui, bien sûr, la connerie évolue, ne serait-ce... Alors, il y a des fondamentaux. Notre cerveau, il n'a pas changé depuis 50 ans. Donc, il y a des fondamentaux dans la façon dont on réfléchit très très vite, etc. Ce qui a changé, c'est les modes d'expression de la connerie. Alors, évidemment, aujourd'hui, la connerie a un pouvoir de propagation qu'elle n'avait pas avant. Avant, quand on était con, on restait dans son village, on ne bougeait pas de son village.
Quelque part, le con, aujourd'hui, est grisé par les réseaux sociaux.
Ah ben, le con
ça
a un message...
Ça l'encourage à être encore plus con.
Le con a un message à délivrer au monde. Il faut que tout le monde écoute, même s'il n'a rien à dire. Donc ça c'est nouveau. Ouais. Avant, c'est l'imprimerie qui a changé. D'autant l'imprimerie, il y a des gens qui disaient « c'est scandaleux, n'importe qui va raconter des conneries et tous ceux qui savent lire vont être au courant ». Bon, plus les moyens de propagation se diffusent, plus la connerie gagne en chambre d'écho. C'est pas pour autant qu'on est plus con qu'avant, nuance.
Ouais, Quentin. Je reviens sur l'exemple de con et connard, ça veut dire qu'on peut être un connard intelligent.
Bien sûr.
Oui.
La connerie n'est pas le contraire de l'intelligence. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a les cons qui sont un peu qui ont la tête vide. Ça, c'est ceux qu'on accusait autrefois d'être des paysans. Vous voyez, c'est les bêtes. Et puis il y a les sots. La sottise, c'est pas la même chose. La sottise, c'est les gens qui sont intelligents, qui savent lire, qui font des études, tout ça, mais qui mettent leur intelligence au service de la connerie et ou qui se perdent qui perdent le contact avec la réalité à force d'être dans leur livre, ou qui mettent leur intelligence au service de thèses indéfendables, qui argumentent toujours pour défendre des trucs plus infâmes les uns que les autres. Ils sont intelligents.
Est-ce que le fameux test de QI prouve, par exemple, si on a plus de 120 de QI, qu'on est quelqu'un d'intelligent et qu'on peut donc échapper à ce qualificatif de con?
Alors, le QI seul, tous les psychologues vous diront que ça ne veut rien dire. C'est comme si vous me disiez, je suis amoureux d'une fille, elle est géniale. Ah bon? Décris-la moi. Elle fait du 38. Ouais, et donc, bah c'est tout. Ah ok. Donc là, si je suis psychologue et que je dis, bravo, votre fille a 124 de QI, c'est tout, mais ça veut rien dire. Est-ce que ça veut dire qu'elle aime l'école? Est-ce qu'elle est bien avec ses parents? Est-ce qu'elle est bien socialement? Est-ce qu'elle a des projets? Est-ce qu'elle s'amuse? Est-ce qu'elle a eu des traumatismes? Le QI ne le dit pas. C'est un élément parmi beaucoup d'autres pour dresser la personnalité de quelqu'un, mais en aucun cas on peut se résumer au chiffre du QI, qui ne sert pas à grand-chose entre nous.
Un QI important n'empêche pas d'être con, notons-le. Lui, il a plus qu'un énorme QI. Il a des capacités conceptuelles sidérantes. Quentin, vous êtes allé demander aux passants comment ils définissaient, eux, la connerie.
Allez, je marche le long d'un boulevard et avant d'entrer sur un chantier, cette équipe qui bosse dans le BTP écoute Joule.
À seul moment, moi, j'y suis. Mon cas s'est arrêté.
Joule qui chante l'amour et les yeux noirs comme sa Twingo. Est-ce que c'est con de comparer les yeux de son crush avec sa Twingo ou est-ce du génie? Je m'interroge. Et je tombe sur Gilles qui découvre le sujet du jour de Zoom Zoom Zen.
C'est la connerie. Globalement, pour moi, c'est le manque de réflexion. C'est-à-dire que si les gens réfléchissaient plus, pensaient par eux-mêmes, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de penser par soi-même. Tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, donc on pense par rapport à... Enfin, on a comme avis l'avis général de ce qu'on a lu, mais on pense pas par soi-même. Voilà, c'est ça pour moi la connerie.
Est-ce qu'il en croit souvent, lui, des cons?
Oui. Enfin, ceci dit, est-ce que c'est la peine de leur dire qu'ils sont cons? Parce qu'on est toujours le con de quelqu'un. Je peux lui faire remarquer, mais je peux pas le blâmer pour ça.
Comment vous faites remarquer à un con qu'il est con, vous?
Lui dire ça sert à rien, c'est absurde. Et puis c'est très méprisant de dire à quelqu'un qu'il est con. Non, ça m'intéresse pas ça.
Oui, l'humain fait des conneries en général.
En permanence. C'est pour ça qu'on est toujours le con de quelqu'un. Donc c'est rejeter les autres en leur disant qu'ils sont cons, c'est ne pas voir que soi-même on est aussi tout à fait perfectible.
Je ne parle pas aux cons, ça les instruit. C'est du odiard taillé pour Gilles. Je croise la route de cette jeune femme qui a un exemple.
Pour moi un con, alors j'ai un exemple très précis. C'est une personne qui est dans le métro et qui tu vois très bien qu'il y a une personne âgée à côté et donc du coup je lui demande de se décaler pour laisser la personne âgée parce que moi je suis pas assise. Excusez-moi monsieur, il y a une vieille dame qui aimerait bien s'asseoir, est-ce que vous pouvez vous lever? Non madame, je vois pas pourquoi je me leverais, elle a qu'à s'asseoir plus loin. Voilà, exactement cet échange clair, net et précis. Voilà. Et puis ce qui est assez sympa à voir, c'est que les gens à côté ont aussi réagi et ont entendu la conversation. Donc ce qui fait que c'était... C'est sympa de voir que les gens réagissent. Il n'y a que ce con qui ne réagit pas et qui ne se lève pas. Bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la dame s'est décalée sur les sièges de 4 de derrière et qu'une femme s'est levée et lui a laissé sa place.
Mais là, à la lumière de ce qu'on a dit avant, c'est plutôt le connard qui est défini plus que
c'est
le
vrai.
Con.
C'est vrai, il n'est pas si con que ça. Ouais. Patrick, lui, a 70 ans, il est encore très actif dans le social, me dit-il. Quelle est sa définition des cons?
Des gens qui sont un peu à côté de la plaque.
Vous en connaissez?
Oh, tout le monde en croise. Ah ben je les croise pas forcément physiquement, je peux aussi les croiser à la télévision.
Ah, là ça m'intéresse. À quoi ils les identifient devant le poste?
À ceux qui, au lieu de parler de l'intérêt général, parlent de leur intérêt particulier.
On veut un nom, ou des noms?
Oh, vous pouvez prendre plusieurs noms dans la classe politique, d'une manière générale.
Citez-moi un.
Vous voulez dire quelqu'un qui se détacherait du lot?
Ouais, un champion.
Un champion, je sais pas, Monsieur Mélenchon.
Et bim, ça dénonce, sacré Patrick. Mon avant-dernière rencontre, c'est Paul. Il a 29 ans, il pose son tote bag au pied du rideau de fer qui protège la vitrine de sa boutique.
Bonjour, ça va?
Ça va et vous?
Ça va.
C'est quoi votre métier à vous?
Caviste.
Ah, alors mon cher Paul...
C'est quoi un con? Un con, il y en a partout, moi j'en ai un des fois dans le miroir... J'en vois beaucoup, des vieux cons, des jeunes cons. À la cave, j'en ai beaucoup.
Le vin, il doit y avoir des cons sur le vin.
Alors sur le vin, il y a des cons qui sont intimidés, qui font comme si c'était quelque chose de grandiose, c'est trop sacré. Et il y a aussi plein de cons qui croient qu'ils s'y connaissent. qui ont connu un viticulteur et qui disent « Ah oui, il y a beaucoup de cons. »
Oui, on voit de qui on parle. Ouais. On en vient à discuter.
Ce monsieur m'a-t-il croisé dans sa cave?
Peut-être.
Donnez-moi son nom, j'irai plus dans sa cave. Si c'est comme ça qu'on est remercié quand on achète 6 caisses de Bordeaux, merci monsieur.
On en vient avec Paul à discuter du film de Francis Weber et je lui parle de ce personnage fan de planche à voile, un ami de François Pignon. Il me dit que justement ça, aujourd'hui, ça a changé.
Mais en fait, je trouve pas ça con, par exemple, d'être fasciné par les planches à voile parce que c'est un mec qui sait ce qu'il aime. C'est pas forcément ce que tout le monde aime. Et il a trouvé ce qu'il faisait kiffer dans la vie. Et moi, je trouve ça plutôt beau et plutôt intelligent. Mais maintenant, il est sûrement membre d'un forum de planche à voile avec plein de mecs qui trouvent ça génial. Et...
Ah, est-ce que les forums sont devenus des sortes de dîners de cons, mais alors sans les méchants, juste des passionnés. Ici, je croise la route de Françoise. Petite dame qui est devant son hall d'immeuble, on croise des voisins et des voisines.
Bah, c'est la bêtise, c'est tout un ensemble de bêtises, d'incompréhensions, d'exagérations, de... Voilà.
C'est quoi un con ?
Bah, c'est un type avec qui il est difficile d'avoir des rapports tendus. C'est un monsieur. Je suis interviewée, cher ami. Vous pourriez peut-être répondre, vous aussi. Ah, vous voulez
quel
pas
sujet ?
Eh, on parle de la connerie, c'est quoi un con ?
Ça le fait pas rire.
C'est un peu lui. Bon. Non, mais je dois aller par là. Accompagnez-moi, s'il vous plaît.
Je l'ai accompagné.
Alors,
ça peut être un voisin, un client, un politique, un vrai con du métro ou un connard. Mais malgré tout, j'ai comme l'impression que l'époque a changé. On stigmatise un peu moins, on comprend plus. Peut-être que la vraie intelligence, c'est justement d'avoir appris à tolérer nos cons du quotidien, dont, indéniablement, nous faisons tous partie. Si, si. Même vous, Manon. Ça arrive.
Le premier con qu'on croise le matin, effectivement, c'est le con qu'on voit dans le miroir. Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Ah, Quentin, oui, une formule que je vous offre comme ça. Jean-François,
elle vient de donner dans le micro-trottoir.
Oui, bah oui, vous l'avez juste reprise.
Oui, c'est vrai, j'ai repris dans le miroir, tout à fait, bien sûr. Mais c'est un hommage à votre micro-trottoir, Quentin. Jean-François Marmure, je reviens sur ce que disait Gilles, qui a dit une chose qui m'a semblé très pertinente à laquelle j'avais jamais pensé. On parle toujours de la surinformation et tout, si on le veut, extrêmement informé. Mais de par cette abondance d'infos, c'est vrai qu'on répercute pas mal dans nos discussions, dans nos paroles, les pensées d'autres. Qu'on a lu et on a du mal à penser par soi-même, peut-être c'est devenu plus dur.
Mais on est tous sujets à ce qu'on appelle le biais de confirmation qui est absolument redoutable, c'est-à-dire que dès qu'on a une opinion, pour en faire une certitude, on va chercher tout ce qui la conforte.
Et on va trouver.
On va trouver à tire-larigot. Mm-hmm. Donc on va chercher des gens qui sont de notre avis, on va lire des blogs ou des journaux ou aller sur des réseaux sociaux qui reflètent notre avis. Et on dit bah, tout le monde pense comme moi, évidemment. Alors que si on avait une honnêteté intellectuelle, il y aurait à voir les gens qu'on ne peut pas saquer, qu'on peut pas encadrer. On dit tiens celui-là, il pense vraiment pas comme moi. Je vais essayer
qu'est-ce
de comprendre comment il pense. Bon évidemment c'est un luxe de faire ça.
Pour moi être con, c'est vraiment la pire insulte. Si j'entends que quelqu'un dit de moi que je suis con, vraiment je le prends très très mal. Est-ce que c'est pareil d'être con et d'être con?
Alors d'abord être con, ça dépend sur quel ton c'est dit. Moi quand on me dit oh t'es con, je le prends comme un compliment. Ça veut dire que ma vanne est bonne. Bon voilà. Con et con, non c'est pas tout à fait la même chose. Alors,
mais on ne dit pas « Oh, t'es conne !» quand, par exemple, une femme sort une vanne un peu marrante. Ça se dit moins.
Ah, ça franchement, s'il faut que je répète des insultes que disent les femmes entre elles...
Non, mais on va dire « Oh, t'es con !»
dès le collège.
Aussi, on va le masculiniser pour la femme.
Ah oui.
Dans ce sens-là.
Ah d'accord, là c'est plus général. Mais en particulier, on a tous le même cerveau, on fonctionne tous de la même façon, donc il n'y a pas vraiment de différence entre les cons et les connes. Par contre, ce qui est toléré au niveau social, entre les cons et les connes, c'est pas pareil. Un homme qui s'emporte un peu, qui veut faire le bonhomme, bon, on dit « ok, c'est un mec ». Une femme qui fait ça, on dit « attends, t'es hystérique ». Donc clairement, on n'a pas le droit, suivant les cultures, suivant les époques, de manifester la connerie de la même façon, suivant qu'on est un homme ou une femme. Ça, c'est très clair.
J'aime bien la tendresse que Paul a sur ce que serait un fan de planche à voile aujourd'hui.
Ouais.
Il dit que c'est un passionné, en fait.
Ah ben alors.
Et en 98, quand le film est sorti, on aurait pu s'en moquer. Ouais.
Le vrai con, c'est-à-dire Thierry Lhermitte dans le film, se moque. Mais il n'y a pas de quoi se moquer. Effectivement, c'est une passion, il n'emmerde personne avec ça. Où est le problème ? Le problème, c'est quand on a une passion et qu'on commence à assommer notre entourage et surtout qu'on est prêt à flinguer ceux qui ne la partagent pas.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Plongé au cœur de la connerie aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen. Alors forcément, le quiz va être consacré à ceux qui sont devenus au fil du temps des figures emblématiques de la connerie.
Non, ça suffit.
Je ne peux pas tolérer une telle insubordination. Vous démarrez tous les deux le quiz avec 3 points de pénalité. Ce qui est certes complètement con.
Ça fait 0-0.
C'est complètement con, mais je vous rappelle que c'est le thème du jour. Plus qu'un quiz, un dîner de con aujourd'hui, puisqu'on va jouer avec les ceintures noires de la boulette. Et pour faire plaisir à Pierre Courade, direction d'abord l'Italie, l'autre pays de la gastronomie. C'est en
en effet dans la grosse botte que naquit Francesco Schettino. Une vie comme tant d'autres, sans événements majeurs, jusqu'à ce qu'il décide de laisser une trace dans l'histoire. Car Francesco, c'est qui ?
Oula.
C'est le gars qui a appuyé sur le mauvais bouton au barrage de Longarone, engloutissant une vallée entière et faisant 2000 morts. C'est le type qui a voulu faire un barbecue au bord de l'Etna en pleine éruption, résultat une très bonne combustion et pas que des merguez. Ou c'est le mec qui a échoué le Costa Concordia sur les rochers parce que l'île de Giglio, c'est plus beau vu de près.
C'est
Je crois que Manon est devant.
Ah,
mais peut-être parce que mon oreille. Non, c'est Manon qui est devant. Bravo, Francesco. Et le plus beau, c'est qu'il a effectué cette manœuvre idiote pour impressionner sa maîtresse qui était présente à bord lors de cette traversée. Heureusement, n'écoutant que son courage, il a abandonné le bateau, permettant ainsi à 32 personnes de se noyer pendant que lui s'envoyait déjà des spritz à la commanderie du port d'à côté. Mais, comme dirait Cyril quand il insulte Materazzi sur les forums dédiés au foot, le Rital est résilient. Car 2 ans plus tard, ce bon vieux Francesco, que faisait-il d'après vous ? Il donnait des cours de gestion de panique à l'université de Rome. Il passait son brevet de pilote.
Oh non.
Où il devenait responsable de la sécurité du port de Naples.
B.
Je vous propose l'opportunité d'une autre réponse. Je vous propose la
B et C.
Bon, non, c'est trop nul. C'était la réponse A. Art du rebond, magie de la résilience ou inconscience de la fac de médecine de Rome, probablement les trois, car c'est bien à des étudiants en médecine que le capitaine Courage, qui avait abandonné le navire, a dispensé ses précieux conseils. Bonne chance si vous avez un jour une péritonite à Rome. Mais poursuivons la visite de ce panthéon de la boulette en partant au Zimbabwe. Je vous présente Alain Savory. Oui, désolé, on n'a qu'une musique.
Non, mais vraiment,
Alain Savory, un écologue spécialisé dans les recherches visant à lutter contre la désertification avec un pâturage raisonné. C'est très beau, c'est ce que Gislain Fontana, notre réalisateur éco-décroissant et Géry Sojade appellerait un saint homme. Mais voilà, avant de militer pour le maintien de la faune ruminante, favorable donc à la croissance des végétaux, les travaux d'Alain l'ont conduit à faire quoi ? À faire brûler des milliers d'hectares qui n'ont jamais repoussé, à assécher un lac entraînant la disparition de tout un écosystème, ou à abattre des dizaines de milliers d'éléphants pour rien.
Les trois.
Vous êtes d'une violence.
Je dirais B. Assécher un lac.
C'était malheureusement pour vous, bande de nullos. La réponse, c'est... Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, me direz-vous, mais tout de même, faire abattre 40 000 éléphants, jugés responsables à l'époque de l'avancée du désert, alors que la désertification s'est même accélérée après, on repousse toutes les limites. Et maintenant, ce bon vieux Alain se fait payer en tant que conférencier pour dire l'importance du passage de la faune pour la régénération de la végétation et de la fertilisation du sol. Pour la prochaine question, redescendons un petit peu dans l'échelle de la connerie. Ici, pas de tragédie, pas de tuerie de masse, mais une simple erreur de jugement qui a fait perdre à ceux qui l'ont mise un bon paquet d'oseille, de la très grosse moula même. Manon Quentin, d'après vous, qu'ont en commun Penguin Random House, Transworld et Faber & Faber ? Ce sont des maisons d'édition qui ont refusé le manuscrit d'Harry Potter parce que tout le monde se foutait des sorciers à lunettes. Mmh. Ce sont des fonds d'investissement qui ont refusé d'entrer au capital de Tesla quand Elon Musk a lancé l'entreprise en se disant que les bagnoles électriques, ça ne marcherait pas. Ou ce sont les boîtes de production qui n'ont pas cru au pitch de Star Wars.
Oh, c'est dur.
C'est très dur, mais en même temps.
Bah, je vais dire C. Allez.
C'est Star Wars.
Ouais, Star Wars. Je dis Harry Potter.
Vous vous dites Harry Potter. Ah, eh bien, Quentin, c'est une excellente réponse. Alors, là, je vais citer 3 maisons d'édition, mais au total, ce ne sont pas moins de 12 éditeurs qui ont mis un gros stop à J.K. Rowling pour des motifs divers et variés, comme, je cite, trop volumineux pour le lectorat cible. Enfin, Back to France, 2014, avec les révélations du canard enchaîné sur un léger ratage qui va coûter 50 millions d'euros à la SNCF. Ce petit scandale à 50 bars, c'est celui de la commande de train trop large, de la commande de train trop haut ou de la commande de train trop gris.
A, large.
Non, trop haut, il passe pas les ponts. B.
J'aime, Quentin, quand vous mettez en branle comme ça votre cervelle et que du coup, des réponses fusent. Malheureusement, c'est une bonne réponse de Manon Mariani. La polémique des trains trop larges. Mais en 2014, petite surprise au unboxing des 2000 rames de TER. 2000 rames quand même de TER. Elles sont trop larges pour l'écart qui existe entre la voie et le quai. Alors, pas trop large pour les rails, ça aurait été magnifique, mais non. Trop large comme le fameux pull blanc de Quentin. Heureusement, à chaque fois, sa solution. Petit dépassement de budget de 50 millions pour raboter 1300 quais. Enfin, attention, surprise, on remet les compteurs à zéro. C'est cette question qui va vous départager, toutes les autres
j'étais
on les oublie. Combien d'allumettes a-t-il fallu à François Pignon pour construire sa tour Eiffel ? 2000 ?
Non.
346 422 ou 777 993 ?
Mais j'ai dit avant !
Non, c'est Manon qui est devant.
Merci.
C'est Manon, découvrons la réponse.
Alors, combien d'allumettes ?
2000 ?
346 422.
Waouh ! Waouh ! Victoire de Manon Marienne. Méritée.
j'ai envie de dire, comme d'habitude.
Mais j'arrête de jouer. Hein.
Mais comment ça, vous avez accumulé les victoires ces derniers temps.
J'ai gagné 3-0, Quentin.
Pas 3-0, j'ai gagné pour Potter.
C'est de vous.
3, on me dit, dans l'oreillette.
Psychologie de la connerie, vieille souche et nouveau variant. Le titre est magnifique. C'est le titre du hors-série de Science Humaine qui vient de paraître. Jean-François Marmion, qui a supervisé ce numéro, est toujours avec nous. Jean-François, dans ce hors-série, vous écrivez un article sur les enfants qui va forcément intéresser tous les parents qui sont persuadés que leur progéniture est HPI, c'est la mode. L'article s'appelle « Comment rendre un enfant stupide ?» Vous pointez du doigt la surprotection de nos enfants. C'est quoi le rapport avec la connerie ?
Alors ça, c'est une enquête que j'avais faite auprès de psy qui étaient exprès d'obédience complètement différente. Et tout le monde m'avait dit la même chose, c'est la surprotection. C'est-à-dire considérer que l'enfant est bon à rien sans nous, en fait. Oui, oui. Le monde est mauvais, mais heureusement, je suis là. T'inquiète pas.
Ça, c'est l'attitude à éviter absolument quand on élève un enfant.
Protéger son enfant, évidemment, on est tous comme ça. Mais le surprotéger, c'est autre chose. Par exemple, il y a un psy américain qui s'appelle Jonathan Haidt qui a écrit un bouquin sur les ravages des écrans sur les enfants. Il dit que le problème, c'est que les parents, pour protéger leurs enfants, leur disent « ne sors pas ». Le monde dehors, c'est dangereux. Reste dans ta chambre, t'es à l'abri. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet sans surveillance et ils tombent sur des dangers pires qu'à l'extérieur.
Vous interrogez une ingénieure du CNRS qui vous dit que ce qui est fondamental pour le développement de l'intelligence, c'est l'action.
Bien sûr. Le bébé, il n'a qu'une hâte, c'est de prendre un objet dans sa main. Ensuite, c'est de se tenir debout. Ensuite, c'est de marcher. Ensuite, c'est d'ouvrir les tiroirs. Ensuite, c'est de faire du vélo. C'est toujours d'explorer, à condition qu'il se sente en sécurité pour le faire. Il sait que ses parents sont derrière en cas de pépin. Mais ce n'est pas à ses parents d'ouvrir les tiroirs et de faire du vélo à sa place. Sinon, il va devenir littéralement handicapé de la vie.
Est-ce que la connerie, du coup, s'explique dès l'enfance ou on peut devenir con beaucoup plus tard ?
Oh, il n'y a pas d'âge. Il n'est jamais trop tard. Non, mais le problème de la connerie qui s'installe dans l'enfant, c'est que c'est souvent des automatismes qui sont induits par les parents, par l'éducation qu'on donne. Un enfant, là c'est Alison Gopnik, une psy américaine que j'avais interviewée là-dessus, un enfant, il a des années où il n'a rien d'autre à faire qu'apprendre.
Oui, donc du coup, ça n'existe pas, un enfant con.
Non.
On est d'accord.
Alors, 9 fois sur 10, quand on emmène un enfant chez les psy, c'est la faute du père ou de la mère.
Oui.
Ou des deux.
Est-ce qu'on peut guérir,
Quentin,
de la connerie ?
Alors, on peut guérir de la connerie, je pense que ça se fait avec le temps. On ne devient pas forcément un vieux con obstiné. Quand on en bat vraiment, quand on est conscient du mal qu'on a fait autour de soi avec notre connerie, ou du mal qu'on s'est fait soi-même, on peut essayer de devenir un peu moins con, mais je pense que, oui, c'est avec les épreuves, la souffrance et les remarques des autres, des gens qu'on aime. Les remarques des autres, ça compte pas.
Vous dites l'autodérision me paraît à moi l'antidote le plus salutaire et le plus agréable.
Bien sûr. Alors agréable, peut-être pas au début, mais après on s'y fait. Vous imaginez les gens qui nous empoisonnent la vie aujourd'hui, qui déclenchent des guerres, qui font rien pour sauver la planète, qui nous dressent les uns contre les autres. Vous les imaginez avoir de l'autodérision ?
Assez peu.
Voilà, là, je suis pas certain. Rire des autres, de ceux qui les écrasent, certainement.
Mais rire d'eux-mêmes, rarement. Dites-nous, l'inverse de la connerie, c'est pas l'intelligence, du coup ?
Ben non. Pour moi, c'est plutôt la sagesse. Pour moi, ce qu'on appelle la connerie, ça rejoint ce qu'on appelait la folie avant que ce soit un terme psychiatrique. C'est ce qui nous éloigne de la sagesse. Alors c'est quoi la sagesse ? Il y a plein de définitions aussi. Mais en gros, quelqu'un qui est sage, il fait de mal à personne et pas à soi. Et peut-être que c'est un ingrédient fondamental du bonheur. Voilà, donc peut-être que la sagesse, ça consiste à ne faire de mal à personne et faire du bien à quelques-uns. C'est déjà pas si mal.
On associe souvent la sagesse à l'expérience, donc il faut du temps pour sortir de la connerie.
Ah certainement, oui. Mais la connerie n'est pas un problème à partir du moment où elle débouche sur un apprentissage. Si on fait des choses par ignorance, si on fait des conneries par ignorance, mais qu'on en est conscient et qu'on dit « Ah quel con, je veux plus faire ça, je vais me corriger », parfait, vous n'êtes pas con du tout. Au moment où vous dites « Ah quel con », vous cessez de l'être. Bon, vous le redevenez parce que vous dites à quel point
c'est dur. C'est dur de rester intelligent tout le temps.
Voilà. Donc, à partir du moment où vous voulez apprendre, très bien, mais l'ignorance qui refuse d'apprendre, qui refuse de s'améliorer, qui refuse de reconnaître ses torts, là, on bascule facilement dans la connerie.
La connerie est-elle universelle ?
Ah oui. Oui, bien sûr, on est tous des êtres humains, on a tous le même cerveau, donc on a tous les mêmes tendances à la connerie. Après, on n'est pas tous dans les mêmes sociétés, les mêmes traditions, le même environnement familial, culturel, donc il y a des nuances dans la façon de l'exprimer.
Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par tous nous rendre cons ?
Alors, il est trop tôt pour le dire. L'intelligence artificielle sera ce qu'on en fait. On sait qu'elle fait déjà des conneries, mais à profusion, elle dit n'importe quoi, elle n'est pas fiable. En même temps, quand elle nous aura tous sauvé la vie au moins une fois, on changera de discours. Mais vraiment, c'est tellement nouveau qu'on n'a pas de mode d'emploi.
Oui, mais
on apprend sur le tas, comme Internet.
Est-ce qu'elle ne nous enlève pas quand même un espace de réflexion ? Si des gamins se mettent à faire du ChatGPT dès 10 ans, comment ils vont se forger leur intelligence ?
Et penser par eux-mêmes.
Dans l'Antiquité, on disait du mal des livres.
C'est vrai, non, mais bien
dit,
sûr.
Attention, la mémoire, elle va se déglinguer avec ça. Après, on a dit du mal des livres, de l'imprimerie, on a dit du mal du théâtre, on a dit du mal des romans, on a dit du mal des films, on a dit du mal des réseaux sociaux, on a dit du mal du rock, en disant ça va vous rendre con.
En fait, on s'habitue à tout.
En fait, non seulement on s'habitue, mais on s'adapte et on change l'utilisation de la technique. Encore une fois, on n'est pas formé pour tout ça. Personne ne nous a jamais formé à l'utilisation des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, ça nous est tombé dessus, on se débrouille avec tous les excès que ça va.
On est dans une phase d'apprentissage peut-être.
Évidemment, et l'IA, c'est pareil. C'est tellement nouveau, c'est tellement inattendu, même les concepteurs ne savent pas où ça va.
Vous écoutez France Inter et c'est la preuve irréfutable que vos capacités conceptuelles sont bonnes. Et c'est l'heure de votre fameuse pièce jointe, Manon.
Oui, aujourd'hui en pièce jointe, un film, une comédie française dont on a vraiment beaucoup parlé pendant cette émission, qui peut se résumer en un seul extrait.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom.
On ne s'en lasse pas, le Dîner de cons de Francis Weber, sorti en 1998, avec un Jacques Villeret irrésistible en François Pignon, ce personnage qualifié de con, féru de maquette en allumette. Son face-à-face en huis clos avec Thierry Lhermitte est devenu culte, même les personnages secondaires, Juste Leblanc, Lucien Cheval, Marlène Sasseur, tout est iconique dans le Dîner de cons. J'adore Marlène Sasseur. Le film est adapté de la pièce de théâtre du même nom, écrite par Francis Weber. Il l'a créé en 1993 avec Jacques Villeret, mais le rôle de Thierry Lhermitte a été successivement joué par Claude Brasseur et par Michel Roux.
Et ça a super bien marché en salle.
Eh bah oui, le Dîner de cons a été un carton, plus de 9 millions d'entrées. Il est le deuxième plus gros succès de cette année-là, derrière Titanic. Et puis il a gagné 3 Césars, dont celui du meilleur acteur pour Jacques Villeret. C'est la 4e fois que Francis Weber fait revenir son personnage de François Pignon, ce con attachant qui est surtout un personnage représentant la naïveté face au cynisme de la société. Pignon apparaîtra dans 8 films du cinéaste. Pour Weber, je cite, la connerie est quelque chose de formidable, mais il faut rester modeste car on est tous le con de quelqu'un. C'est exactement ce que nous raconte le Dîner de cons, ce François Pignon qui se sent si ridicule, si petit face à cet homme riche, imbuvable, qui se moque de lui, alors qu'à force de quiproquos, d'étourderies et de naïveté, c'est Brochant qui va se retrouver pris à son propre piège. Sa vie amoureuse explose, ses amitiés vacillent, il se prépare même un contrôle fiscal grâce à ce cher Monsieur Cheval, tandis que Pignon, qu'il méprisait, se révèle attachant, se révèle généreux et finalement pas si con que ça.
Merci Manon. Jean-François, c'est vrai que le Dîner de cons, c'est un classique de la comédie, mais c'est aussi une leçon finalement. Il y a un message, c'est l'ermite le con dans ce film finalement.
Oui, mais c'est un peu le même procédé qui est repris dans pas mal de comédies de Francis Weber, que ce soit avec François Pignon ou François, c'est lequel l'autre ?
Ah oui, j'ai oublié.
Il y en a deux. Il y a deux François.
Perrin.
François Pignon ou François Perrin. Voilà. Par exemple, dans L'Emmerdeur, vous avez Lino Ventura qui est un tueur de la mafia, si je me souviens bien, qui se retrouve avec Jacques Brel qui est un suicidaire. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette lavette avec moi ? Et finalement, le véritable humain, c'est le con qui donne une leçon de vie à l'autre et qui a été trop péremptoire dans sa façon de le juger.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Amis auditeurs, chères auditrices, que diriez-vous pour égayer vos mornes vies d'un dîner chez moi mercredi prochain ? Le convive d'honneur sera Pierre Courade, qui nous parlera de sa passion pour les avions, civils et militaires, mono et bimoteurs, voire, parfois quand il est chaud, quadrimoteur. Grâce à lui, vous saurez que le Rafale est un bon avion, mais que le F-15 est plus polyvalent, ou qu'il suffit de 12 secondes à l'Eurofighter pour atteindre Mach 3. D'ici là, Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur la connerie en une minute chrono ?
Vaste sujet, que l'on a défriché avec un conologue autoproclamé, Jean-François Marmion, psychologue et spécialiste de la connerie, donc, ayant une pensée pour les personnes qui viennent le consulter et qui comprennent aujourd'hui qu'ils font partie de son sujet d'étude.
Non, j'ai pas de passion.
Car la connerie, ça s'étudie, figurez-vous, et ça s'explique. Notre invité nous a gratifié d'un bande de cons dès le début de cette émission. Sympa, mais c'était pour dire que nous sommes toujours le con de quelqu'un. Hein. Moins on connaît une personne, plus on est prompt à la traiter d'imbécile. Plus on connaît quelqu'un, moins on la considère comme un con. Dès l'Antiquité, les citadins considéraient les ruraux comme des cons, des bêtes, et les ruraux trouvaient les citadins idiots et pédants. On a retrouvé ce clivage au moment des gilets jaunes, nous a rappelé notre invité, comme quoi la connerie, c'est avant tout l'ignorance. Tout vient du cerveau, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le QI, et moins on est compétent dans un domaine, plus on tend à surestimer ses connaissances. Et si les imbéciles ne changent pas d'avis, ils ont aussi envie de le partager, leur avis, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui fait dire à notre invité que s'il n'y a pas plus de cons aujourd'hui qu'hier, on les entend plus. Heureusement, on peut guérir de la connerie grâce à l'autodérision, nous a dit Jean-François Marmion. Ici, grâce à Mathieu, on est tous vaccinés.
Vous êtes vaccinés à vie et si vous voulez en savoir plus, il y a évidemment Psychologie de la connerie, vieille souche et nouveaux variants. C'est le magazine Sciences Humaines. Et voici venu le moment où notre professeur rend les copies. Espérons, cher François Rollin, que les notes soient meilleures que la semaine dernière.
Eh bien, mon cher Mathieu, vendredi dernier, après avoir dressé un bilan globalement négatif de la semaine écoulée, Je vous avais, dans ma grande mansuétude, donné le week-end pour redresser la barre. Non seulement vous ne l'avez pas redressé, mais vous avez braqué violemment à tribord toute et vous avez attaqué la falaise. Alors, les dégâts occasionnés sur votre navire, je m'en tamponne bien sur le coquillard, mais la falaise, elle est à tout le monde et vous l'avez scandaleusement défigurée. Voyons cela à la loupe. Lundi, le phénomène Patrick Sébastien. Je m'étonne que vous ayez le toupet de célébrer une personnalité qui est en proie à de gros ennuis judiciaires dans une affaire en cours. En effet, et vous ne pouvez pas l'ignorer, l'intersyndicale de la sardine de Douarnenez a assigné Patrick Sébastien en diffamation et préjudice commercial, affirmant et prouvant que jamais les sardines ne se sont plaintes d'être serrées au fond de leur boîte. Selon les plaignants, il est faux d'affirmer qu'elles le disent et encore plus faux de prétendre qu'elles le chantent. Occupez-vous donc de vos oignons et laissez la justice trancher entre l'huile et les aromates. Mardi, le métier de conlanger, qui consiste à inventer de nouvelles langues pour des œuvres de fiction. C'est Ganago Palikun Ferzot, Paul Morzati, Neke Volodzet Soupark. Ce qui veut dire, le sujet était nul et son traitement pire encore. Mercredi, les villes sous 50 degrés. Je ne vois rien là d'extraordinaire, sachant que Pompéi et Saint-Pierre de la Martinique, pour ne citer que celle-là, ont fini sous 950 degrés. Zoom zoom zen, petit joueur. Jeudi, la transmisogynie dans le sport, sous-entendu, la transmisogynie n'existe pas dans les autres secteurs d'activité. Fallacieux et réducteur. Et aujourd'hui, vendredi, la connerie. Bon, bah, puisque vous en convenez vous-même, je n'ai rien à ajouter. Avec tout ce temps perdu, vous êtes passé à côté du seul sujet qui en valait la peine, le sujet qui passionne la France Inter, le sujet qui fait courir les rumeurs les plus folles et ravive les spéculations les plus délirantes, le mystère de la gare de Canfranc. Bon Mathieu, soyez gentil de me demander sur un ton un peu niais, Quesaco.
Quesaco ?
Mon Dieu qu'il est niais celui-là ! J'explique. Au début du siècle dernier, il est décidé de construire une ligne de chemin de fer reliant Pau, en France, à Saragosse, en Espagne, en passant par le tunnel ferroviaire du Somport, tunnel achevé, comme vous le savez, en 1915. Cette ligne, inaugurée en 1928, traverse la frontière sur la commune espagnole de Canfranc. C'est donc là qu'on construit une gare. Une gare monumentale, follement surdimensionnée, comme on le verra par la suite. Une gare aussi grande que la gare de Paris-Saint-Lazare. Mais tandis que le trafic à Saint-Lazare est actuellement de 450 000 voyageurs par jour, le trafic voyageur à la gare de Canfranc n'a jamais excédé 50 personnes par jour. La ligne Pau-Saragosse a finalement été désaffectée en 1970 et dans les années 2000, cette gare gigantesque a été transformée en hôtel 5 étoiles, réservation au 0800 26 10 52 ou sur le site barcelo.com. Bon, Mathieu, soyez aimable de me demander sur un ton naïf et benêt, mais où c'est qu'il est le mystère ?
Mais où c'est qu'il est le mystère ?
Mon Dieu, qu'il est servile, celui-ci. Eh bien voilà, comment les responsables du projet, en tête desquels le président français Gaston Doumergue et le roi d'Espagne Alphonse XIII, ont-ils pu commettre une telle erreur d'appréciation ? Comment ont-ils pu s'aveugler et gaspiller l'argent public en construisant une gare 100 fois trop grande ? Comment ont-ils pu se tromper aussi lourdement ? Mystère. Et bon week-end à tous.
Voilà qui a bien fait avancer le schmilblick. Merci beaucoup François Rollin pour cette analyse de nos émissions. Et c'est corrigé que vous nous fournissez chaque semaine. On vous retrouve bien.
Ce que François Rollin ne dit pas parce qu'il est d'une pudeur de violette, c'est que lui aussi, il publie sur la connerie. Il appelle ça la bêtise.
Mais oui, c'est vrai.
Notamment le dictionnaire amoureux de la bêtise. Et suis-je bête, vous voyez ?
Alors la promo, d'un chroniqueur faite par l'invité, c'est une première.
Ouais, ouais.
Des ouvrages tellement excellents.
Vous êtes bien sur France Inter.
Ces ouvrages sont tellement excellents qu'ils pourraient presque être de moi, d'ailleurs.
Oh, c'est pas possible. Merci Jean-François Marmion d'être venu nous partager une partie de vos connaissances encyclopédiques sur la connerie. Pour en savoir plus, leur série de sciences humaines, je l'ai cité, Psychologie de la connerie, c'est en kiosque. Et je signale d'ailleurs que le magazine bénéficie d'un nouveau tirage face au succès des ventes, comme quoi la connerie, c'est vendeur. Zoom, zoom, zen.